Merlin, roman écrit par Robert de Boron au XIIIe siècle et adapté en français moderne par Anne-Marie Cadeau-Collin. Chapitre 1. Le projet diabolique. Le projet diabolique. Ce jour-là, Satan, le prince des démons, jeta son regard sur la terre et ce qu'il vit le fit entrer dans une violente colère. Il rassembla tous ses diables pour s'adresser à eux. La situation est grave. Nous avons perdu notre pouvoir sur les hommes depuis que Jésus, le Fils de Dieu, est descendu sur terre. Avant, tous les enfants d'Adam et Ève se conduisaient si mal qu'ils allaient en enfer. Qu'a donc fait ce Jésus pour que les humains nous échappent ?
Ce Jésus, répondit l'un des démons, ne s'est pas contenté d'être pur de tout péché.
Cela n'aurait pas été bien grave qu'un seul soit perdu pour nous.
Mais il a lavé les hommes de leurs fautes. Il leur suffit maintenant d'être baptisés, et nous n'avons plus aucun pouvoir sur eux. Bien plus grave, il a laissé sur terre ses apôtres et ses prêtres pour les aider à se conduire sagement. C'est ainsi que nous les avons perdus.
Pourtant, reprit un autre, ce n'est pas faute de nous donner du mal. Nous les tourmentons, nous les harcelons sans cesse pour qu'ils commettent des péchés. Mais il suffit qu'ils regrettent leurs fautes et se confessent pour être aussitôt pardonnés. Ce jeu est trop facile et la partie est inégale.
Satan resta un moment silencieux, plongé dans ses réflexions, puis il releva la tête.
Ce qu'il nous faudrait, dit-il, c'est un être issu de nous qui jouerait le même rôle que ce Jésus. Mais au lieu de sauver les hommes, il les mènerait à leur perte. Une créature qui vivrait sur la terre avec les gens et qui nous aiderait à les tromper. Nous avons la faculté de connaître tout ce qui a été dit et fait dans le passé. Cet homme pourrait révéler aux autres le passé proche et éloigné, et gagner ainsi leur confiance.
Voilà une excellente idée, dirent les diables d'une voix unanime. Mais comment créer un tel homme ?
Je n'ai pas le pouvoir, dit l'un d'entre eux, de prendre forme humaine pour m'unir à une femme, mais je connais une jeune fille qui conviendrait tout à fait à ce projet.
« Il en est quelques-uns parmi nous, dit un autre, qui peuvent prendre l'apparence humaine. Ce sont les incubes, des démons vivant dans les airs et qui viennent parfois visiter les femmes durant leur sommeil. »«
Ce serait parfait, approuvèrent les autres diables, mais il nous faut procéder avec la plus grande discrétion. »
Ils se mirent d'accord sur ce projet et convinrent d'engendrer un homme capable de séduire et de tromper l'humanité entière. En ces temps lointains, vivaient en Bretagne deux sœurs qui n'avaient plus ni père ni mère. En mourant, leurs parents leur avaient laissé de grands biens. La plus jeune en profitait pour mener une vie déréglée, mais l'aînée se comportait avec la plus grande sagesse. Elle avait pour conseiller un prêtre nommé Maître Blaise, un saint homme qui lui enseignait comment conduire sa vie. C'est à elle que pensait le démon qui s'était vanté de connaître une jeune fille et pouvant servir à leur projet. Car les diables sont ainsi faits. Il leur plaît mille fois plus de séduire et d'égarer une âme vertueuse que celle qui est déjà portée à faire le mal. Le diable lui envoya donc une vieille femme qui obéissait toujours à ses ordres. C'est elle qui avait déjà détourné du droit chemin la sœur cadette par ses mauvais conseils. Elle alla cette fois trouver l'aînée.
« Belle amie, lui dit-elle, je vous vois mener une vie bien triste. » Si vous saviez quel plaisir connaissent les autres femmes et combien il est gai et amusant de vivre en joyeuse compagnie.
Elle est bien malheureuse, celle qui n'a pas un jeune galant pour lui dire combien elle est belle.
Quel dommage pour votre corps gracieux qui ne goûtera jamais le plaisir.
La jeune fille resta toute songeuse et le soir venu, au moment de se coucher, elle regarda son beau corps et se dit que la vieille avait peut-être raison. Mais le lendemain matin, elle alla voir Maître Blaise pour tout lui raconter.
« Garde-toi bien, lui dit-il, d'écouter ces discours inspirés par le diable. Fais le signe de croix en te levant et en te couchant, et surtout veille à avoir toujours de la lumière la nuit dans la chambre où tu dors, car le diable déteste la clarté et ne vient pas où elle se trouve. »
Quand le démon entendit ces sages conseils, il eut grand peur de ne pas réussir dans son entreprise.
Finalement, il pensa que le seul moyen de faire oublier à la jeune fille les enseignements du saint homme serait de la mettre en colère. Il eut recours pour cela à la sœur cadette. Il la fit arriver le samedi soir à la demeure paternelle, fort tard dans la nuit. Elle était accompagnée de toute une bande de mauvais garçons qui envahirent la maison. Quand l'aînée les aperçut, elle se mit en colère. « Chère sœur, tant que vous mènerez cette vie, je refuse de vous voir ici. C'est moi qui risque d'être blâmée pour vos débordements. » Furieuse de s'entendre accuser ainsi, la cadette riposta. « Mais cette maison est celle de notre père, à toutes les deux. Elle m'appartient autant qu'à vous, et je n'en sortirai pas. » Devant ce refus, l'aînée la prit par les épaules et voulut la mettre dehors. L'autre se rebiffa alors, et les vauriens qui l'accompagnaient se saisirent de sa sœur pour la rouer de coups. Ils la battirent cruellement, mais elle parvint à leur échapper et courut s'enfermer dans sa chambre. Une fois seule, elle se jeta sur son lit et se mit à pleurer amèrement. Remplie de colère contre sa sœur qui l'avait maltraitée, elle finit par s'endormir. Dans sa détresse, elle avait complètement oublié les recommandations du saint homme. La voyant dans cet état, le diable se dit tout joyeux. « Maintenant, cette femme est à moi. C'est le moment de faire venir le démon qui a pouvoir de s'unir aux femmes. » Le démon incube était tout prêt à agir. Il vint à elle pendant son sommeil et la féconda. Lorsqu'elle se réveilla, la jeune fille s'exclama. « Sainte Marie, que m'est-il arrivé ? Je ne suis plus la même que lorsque je me suis couchée. Douce mère de Dieu, protégez-moi. » Aussitôt, elle se leva et courut à la porte de la chambre qu'elle trouva fermée à clé. Elle se mit alors à la recherche du coupable, qui devait être encore sur place, pensait-elle. Elle fouilla toute la pièce sans résultat. Elle comprit alors qu'elle avait été le jouet du diable et se mit à pleurer. Pendant ce temps, le diable avait fait partir de la maison la cadette avec sa bande de garçons. Ils avaient joué leur rôle et ils n'avaient plus besoin d'eux. Quand ils eurent disparu, l'aînée put sortir de sa chambre et, toute bouleversée en pleurs, elle se mit en route pour aller trouver Maître Blaise. « Je te vois tout épouvantée et tremblante, » lui dit-il en l'apercevant. « Tu as des ennuis, il me semble, ma chère fille. »«
Seigneur, ce qui m'arrive n'est jamais arrivé à aucune femme. Je viens vous demander conseil et me confesser, car j'ai commis un grand péché. J'ai été victime du diable. »
Elle lui raconta alors comment sa sœur était venue chez elle et comment elle s'était comportée avec la bande de vauriens qui l'accompagnaient.
« Seigneur, je suis entrée dans ma chambre en fermant la porte derrière moi, mais j'étais si pleine de douleur et de colère que j'ai oublié vos conseils. Je me suis couchée sans me signer, et voilà qu'à mon réveil, j'étais déshonorée. Je n'étais plus vierge. J'ai eu beau fouiller toute la chambre, je n'ai pu trouver le coupable. » « Seigneur, c'est ainsi que tout s'est passé. J'ai été trompé par le diable. »
Le prêtre l'avait écouté avec une grande attention, mais il restait incrédule, car jamais il n'avait rien entendu de semblable. « Mon ami, je suis persuadé que tu mens. Jamais une femme ne s'est unie à un homme sans le connaître, ou du moins sans le voir. Comment veux-tu que je te croie ?»«
Seigneur, j'en fais serment devant Dieu. J'ai dit l'entière vérité. »
« Es-tu prête ? Dans ce cas, à faire une confession sincère et à accepter la pénitence que je te donnerai ?»«
Seigneur, je ferai tout ce que vous me commanderez. »
Le prêtre entendit sa confession et lui donna l'absolution. Il continuait pourtant à se demander si tout était bien vrai dans son histoire. Mais à la réflexion, il comprit qu'elle avait effectivement été trompée par l'ennemi. « Prends bien garde, lui dit-il, de fuir toute tentation et de mener une vie exemplaire, sans rencontrer aucun homme. N'oublie pas mes recommandations et viens me voir chaque fois que tu en auras besoin. » Il fit sur elle le signe de croix pour la bénir et la laissa aller. Elle rentra chez elle et mena une vie simple et honnête. Quand le diable vit qu'il l'avait perdue, il fut très en colère, car il supportait mal la défaite. La jeune fille vécut ainsi jusqu'au moment où il lui fut impossible de dissimuler son état. Elle grossit et s'arrondit si bien que les autres femmes s'en aperçurent et lui dirent en examinant son ventre « Par Dieu, ma chère amie, vous prenez de l'embonpoint. » « Assurément. Êtes-vous enceinte ?»«
Oui, je crois. » « Mais de qui ?»«
Je l'ignore. » »« Ma foi !» « Avez-vous couché avec tant d'hommes que vous ignoriez qui est le père ? »
Je n'ai eu de rapport avec aucun homme. Dieu m'en est témoin. »
À ces mots, les femmes se signèrent. « Ami, c'est impossible, cela n'est jamais arrivé à personne. Vous aimez sans doute le coupable, et vous ne voulez pas l'accuser. Mais prenez garde, dès que les juges le sauront, ils vous condamneront à mort. »
Ces paroles épouvantèrent la jeune fille. À cette époque, en effet, quand une femme menait une vie débauchée, elle était appelée devant les juges de la ville qui la mettaient à mort. Horrifiée, elle courut chez Maître Blaise et lui rapporta les propos des femmes.
« Ma fille, es-tu bien sûre d'avoir suivi la pénitence que je t'ai imposée et d'avoir évité tout rapport avec des hommes ?»«
Je puis vous le jurer. »«
Tu n'as donc péché qu'une fois ?»«
Oui, Seigneur, ce fut la première et la dernière fois. »
« Dis-moi alors exactement quand cela s'est passé. »
Le prêtre nota soigneusement la nuit et l'heure qu'elle lui indiqua.
« N'aie pas peur, lui dit-il. Quand cet enfant naîtra, je verrai bien si tu m'as dit la vérité. Si tu es tel que tu le dis, Dieu te protégera. Tu vas vivre des moments pénibles, car les juges, quand ils apprendront cela, te feront arrêter. Mais je serai auprès de toi pour te porter secours. »
Peu de temps après, en effet, les juges furent instruits de l'affaire. Ils firent comparaître cette femme qui prétendait ignorer de qui elle était enceinte. Celle-ci envoyait aussitôt chercher Maître Blaise.
« Seigneur, demandèrent les juges au prêtre, croyez-vous qu'une femme puisse être enceinte sans avoir eu de rapport avec un homme ?»«
Je ne vous dirai pas tout ce que je sais. »
Mais, si vous voulez m'en croire, il ne serait ni raisonnable ni juste de livrer cette femme au supplice tant qu'elle est enceinte. L'enfant n'a pas participé au péché de la mère. Vous ne devez pas tuer un innocent.
« Nous suivrons votre conseil, dirent les juges. Mais comment nous assurer d'elle ?
Faites-la donc garder dans une tour, un lieu où elle ne pourra pas se conduire mal. Placez auprès d'elle deux femmes qui l'aideront à accoucher quand le moment sera venu, et donnez-leur tout le nécessaire. Gardez-la ainsi sous surveillance jusqu'à la naissance. Là, je vous conseille de la laisser nourrir l'enfant jusqu'au moment où il sera sevré. Alors seulement, vous pourrez faire de cette femme ce que vous voudrez. »
Les juges trouvèrent cet avis plein de sagesse et décidèrent de s'y conformer. Ils placèrent la jeune fille dans une haute tour dont ils firent murer toutes les portes et enfermèrent avec elle les deux femmes les plus vertueuses de la ville. On ne laissa ouverte qu'une petite fenêtre tout en haut, par laquelle on leur hissait, au moyen d'une corde, ce dont elles avaient besoin.